Les jeunes reporters européens vous parlent. Les jeunes reporters européens vous parlent.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Eau2 Radio, fréquence 91.3, la radio des Hauts-de-Garonne. Je m'appelle Zoé et je suis en service civique à la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, la MEBA. Et je vais animer aujourd'hui l'émission des jeunes reporters européens qui est donc tous les mardis à la même heure. Avec moi dans le studio aujourd'hui, j'ai Marine et Mylène.
Bonjour Zoé. Bonjour.
Qui sont aussi en service civique français avec moi et j'ai aussi Johanna. Bonjour.
Bonjour.
Qui a un service volontaire européen et qui est originaire de Roumanie. Et en régie aussi, on a Pétard, qui ne pourra pas dire bonjour, mais qui est service volontaire européen de Serbie. Dans l'émission du jour, et en plus je suis malade, je tousse, Marine va d'abord nous parler des différentes façons de dire bonjour en Europe, d'après les différents témoignages de nos services volontaires européens. Elle nous fera ensuite la revue de presse européenne hebdomadaire. Elle a eu beaucoup de travail pour cette semaine. Après ça, on retrouvera Johanna qui nous présentera son coup de cœur de la semaine. Je vous révélerai l'agenda de la semaine et on aura droit enfin à la conclusion avec la minute de Rmini. Et on commence tout de suite avec la question au cœur de l'émission d'aujourd'hui, présentée par Marine, qui va nous expliquer les différentes salutations en Europe. Et c'est à toi.
Buna, dobardan, hola, good morning, buongiorno. Donc comme vous l'avez deviné, je viens de vous dire bonjour en plusieurs langues, donc en roumain, en serbe, en espagnol, en anglais et en italien. Donc aujourd'hui, on va parler des salutations en Europe. Alors oui, je sais, c'est pas le sujet le plus glamour qu'on va vous présenter tout au long de cette année avec notre magazine des jeunes reporters européens, mais comme on accueille des services volontaires, on s'est dit que ce serait pas mal de refaire un petit point sur les différentes salutations. Donc on va commencer par la France, je pense que...
Beaucoup de choses à dire.
Voilà, le plus facile parce que c'est le sujet qu'on le connaît le mieux. Donc comme vous le savez, en France on se fait la bise. Alors ça paraît très simple comme ça, mais en fait pas du tout. On va déjà commencer par nuancer un peu les propos. Il faut savoir que nous les Français n'embrassent pas tout le monde sur la joue. On ne va pas se précipiter sur des inconnus pour leur faire la bise.
Ça on va rassurer nos jeunes volontaires européens qui ont un peu peur.
Rassurons les nationalités qui ne connaissent pas cette coutume et qui sont un peu réticents. Non. Dans un contexte professionnel, avec des gens qu'on ne connaît pas, on va se serrer la main, surtout chez les hommes, parce qu'il faudra remarquer, petite anecdote, que quand j'ai fait mon stage cet été, les élus serraient la main des stagiaires garçons. Par contre, les filles, on leur faisait la bise. Hein. Je sais pas pourquoi, mais...
On se sent très à l'aise avec les hommes, on aime bien.
Toujours, voilà, ils sont toujours un petit moment. Ah non, on la connaît pas, mais allez, petit bisou sur la joue, c'est une jeune fille, elle est plutôt jolie. Allez, c'est parti.
On a tous connu ça, je pense.
Voilà, je pense, toutes et tous. Donc voilà, commençons par remettre les choses dans leur contexte. Dans un cadre professionnel, on se serre la main. La bise, c'est avec les gens que l'on connaît ou alors des gens qu'on va rencontrer mais qui sont dans notre cercle d'amis, qui sont dans notre âge. Voilà, on va comme quand nous, on a rencontré tes amis Erasmus ce week-end, Zoé, on leur a fait la bise parce que ce sont des amis, parce qu'ils ont notre âge.
Ils ont eu un peu de mal à s'y habituer, ils étaient un peu étonnés. Hein.
Ouais, ça leur a fait un choc un peu. Quoique, franchement... Ivo, ils devraient être habitués. Aux Pays-Bas,
Ils sont assez proches. Mais c'est vrai qu'au début, pour raconter aux auditeurs qui n'ont pas vu la scène, ils ont commencé à serrer la main à tout le monde et tout le monde les a regardés avec des grands yeux. Mais qu'est-ce qu'ils font?
Mais venez nous faire la bise, les garçons. Franchement,
vous êtes plus proches, ça va. On ne va pas vous manger.
Là où ça se complique, en fait, en France, c'est selon l'exécution de la bise, puisqu'on ne fait pas la bise de la même façon suivant l'endroit où on habite. Et oui, il y a plusieurs façons de faire la bise. Déjà, on a la grosse question, joue gauche, joue droite. Par quel joue on commence?
Alors, même pas de question à se poser.
Alors vas-y,
je suis contre. Moi, je commence par la joue gauche.
Et ben voilà, on est déjà en désaccord. Moi, je commence par la joue droite. Donc déjà, on a perturbation.
Je mets ma tête à gauche et je crois que c'est... Ah bah non, du coup, c'est la joue droite. Attends.
Ah voilà.
Mais moi, je suis perdue. Attends, dans ma gauche et ma droite. Oui, c'est ça. Je touche la joue droite, mais je mets ma tête à gauche. Bon, je pense qu'on voit un peu la scène, on voit à quoi ça ressemble.
Vous avez tous connu ce moment où vous rencontrez une personne qui vient d'une autre région et vous ne tendez pas la même joue pour commencer la bise. C'est toujours le moment très gênant.
Moment un peu gênant.
Donc, je tiens à signaler aujourd'hui que après études et recherches, plus de 80% du pays commence par la joue droite. Donc ceux qui commencent par la joue gauche, mettez-vous à la page. Ouais. C'est plus possible.
C'est comme pain au chocolat et chocolat. S'il vous plaît, les gens, mettez-vous à la page. Je ne suis pas bordelaise, je dis ça à la radio bordelaise, je vais me faire tuer par les auditeurs, mais non, je suis contre la chocolatine, c'est pareil.
Zoé, je te soutiens, on va se faire tuer à deux. La
régie me fait des grands signes, la régie n'est pas contente.
Et bah, la régie va faire avec, parce que je suis désolée, le pain au chocolat est la tournure la plus connue en France.
C'est pareil, 20% de la population à peine dit chocolatine, donc mettez-vous à la page.
Mais vous allez voir que c'est toujours ces mêmes 20% de la population qui ne font jamais rien comme les autres. Voilà, donc les 20% qui font...
C'est les rebelles, en fait.
Voilà, les 20% qui commencent par la gauche, ça va aussi être les 20% qui ne font pas le même nombre de bises. Parce que oui, pour les étrangers, voilà, on n'a pas le même nombre de bises. Donc Yohanna, t'as dû t'habituer à un bisou sur chaque joue, mais c'est pas comme ça dans toutes
c'est
les régions.
C'est comme ça qu'on fait à Bordeaux, c'est comme ça qu'on fait entre nous, en tout
voilà.
cas.
Il y a des régions où on fait une bise, il y a des régions où on fait deux bises, des régions où on fait trois bises, et des régions où on va même jusqu'à quatre. Alors là, j'avoue, c'est un peu overkill. Les gars, on va se calmer. Quatre, c'est vraiment trop.
Tu passes ton quart d'heure à faire la bise.
C'est ça, c'est plus possible, en fait. Calmez-vous. Deux, trois max. Déjà, trois, c'est chiant, parce que quand tu t'y attends pas, t'as toujours personne.
C'est surtout que déjà, quand t'arrives dans une soirée et que t'as 30 personnes, que tu dois dire bonjour à tout le monde, mais alors en plus, si tu dois faire 4 bises à chaque fois et qu'il y a 30 personnes, ça devient très long. Hein.
Alors moi, j'ai résolu ce problème. Petit conseil, si vous êtes le dernier à arriver en soirée, vous faites un petit coucou de la main, vous dites « Aloha », ce que vous voulez.
Aloha.
Voilà, moi je dis « Aloha », j'aime bien, je me sens hawaïenne, j'ai cette humeur des îles quand j'arrive
tropicale.
En soirée. Mais voilà, petit coucou de la main. Parce que faire la bise à tout le monde, en vrai, c'est juste pas possible. Donc voilà, petit exemple, si vous venez me voir en Auvergne, à Clermont-Ferrand, ce sera joue droite, deux bises. Par contre, si vous allez à Montpellier dans le sud, ce sera joue gauche, trois bises. Voilà.
Oh, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Non, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Montpelliérains qui nous écoutent aujourd'hui, mais ils n'ont rien compris. On va changer ça.
On est d'accord.
Du coup, on va faire une petite pause musicale et on va écouter tout de suite Shame, Shame, Shame de Linda Fields et The Funky Boys. Et on a choisi ça parce qu'on avait envie de vraiment groover dans ce studio aujourd'hui. C'est parti!
If you got the notion, can't stop it, dude. Cause you just won't move. Got my sun groove down. Put my diamond in the bag. Hey!
On est de retour sur Eau de Radio, fréquence 91.3, et vous écoutez l'émission des jeunes reporters européens. Dans la première partie, avec Marine, on a un peu parlé des façons de dire bonjour, et on a commencé par la France, on a un peu rigolé. Et maintenant, elle va nous raconter la petite histoire de la bise, et ensuite, on va parler des différentes façons de dire bonjour en Europe, avec quelques témoignages de quelques volontaires européens qui travaillent avec nous. Marine.
Alors, on a l'air de penser que la bise, c'est très, très français. Mais en fait, ça vient de la Rome antique. Et comme on n'est pas le seul pays à avoir été envahi par les Romains, ça s'est diffusé dans plusieurs autres zones géographiques. Donc, on va retrouver les bisous sur la joue, on va retrouver ça dans les pays francophones, orthodoxes, dans les pays d'Europe du Sud. Et donc, il faut savoir que ça date de l'Antiquité, de la Rome antique, même de la Grèce, de l'Inde. Je tiens à vous rappeler que plus de 30 baisers sont répertoriés dans le Kama Sutra.
Oui. Et merci Marine pour les références.
Écoutez, je vous ressors mes recherches. Voilà, c'est ce que j'ai cherché l'histoire de la bise. C'était dans l'article. Je ne fais que répéter mes sources.
Donc ça a été. T'as des très bonnes sources. Moi j'aime beaucoup.
Je me doutais que ça allait te plaire. Donc on a vraiment à l'époque.
Tout de suite, mais voilà, moi, de quoi j'ai l'air maintenant à dire ça là. Je suis out.
Ne fais plus la présentation et cours. Arrête maintenant, de parler, je ne sais
je
pas.
Je suis trop à découvert.
Donc, les Romains ont carrément érigé un code social du baiser. Donc, vous auriez vécu à Rome il y a 2000 ans, vous auriez eu trois façons d'embrasser les gens. Donc, l'osculum.
Plus dur que chez nous. Hein.
Donc, oui, pour les personnes du même rang social, donc bouche fermée sur la joue, etc. Le basium, donc baiser de tendresse pour la famille, le conjoint. Et après, on a le suavium. Donc, qui était plutôt le baiser à fort échange de langue et de nettoyage de la glotte, plutôt
sympa.
Réservé aux femmes de joie, qui serait
d'accord.
Apparemment l'ancêtre du French kiss.
Ah, donc en fait, le French kiss serait le woman kiss, en fait.
Ouais, et pour tous ceux qui trouvent que le French kiss, c'est super romantique, voilà, je tiens à vous rappeler que c'était le baiser réservé aux femmes de joie, donc vous allez peut-être revoir votre image du French kiss à la baisse, je ne sais pas. Enfin, voilà. Petite histoire sympa, comme ça on remet les choses dans leur contexte.
Moi, j'aime bien.
Tout ça, c'est hérité des Romains.
Il faut toujours être clair sur pourquoi on est là, quelles sont nos traditions.
C'est ça. Donc raison pour laquelle, aujourd'hui, on retrouve les baisers sur la joue dans d'autres pays, comme par exemple en Belgique, même si là-bas aux Pays-Bas, ou c'est deux. Donc faites attention, si vous allez en Belgique et qu'après vous passez la frontière, faites gaffe, vous avez...
Aux Pays-Bas, c'est quoi ?
C'est deux. Supplémentaire, donc préparez-vous, vous voyez ça.
En Belgique, c'est un et aux Pays-Bas, c'est deux.
Voilà, petit décalage de frontière à l'autre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre un tas de trucs.
C'est génial. J'aime beaucoup. Je croyais que c'était, je sais pas. Ok, bon, d'accord, très bien. Je te fais confiance, voilà.
Mais t'as pas du tout suivi. C'est Ivo qui me l'a dit.
Voilà. Ivo, c'est mon ami, qui nous a visité ce week-end, qui est néerlandais, et je ne savais pas qu'il faisait la bise. Voilà, j'apprends des choses sur mon propre meilleur ami, comme quoi.
Voilà. Tu sais, tu n'écoutes pas quand on te
parle. Non, j'ai pas écouté. Moi, la conversation de Marine et Ivo. En fait, je vous laisse discuter.
Et voilà, ça part. C'est pas en cacahuète. Alors, mais pour avoir d'autres points de vue, j'ai quand même demandé à quelques-uns de nos SV de nous expliquer comment ça se passe dans leur pays. Et comme je vous l'ai dit, on n'est pas les seuls adeptes de la bise. Donc en Serbie, par exemple, c'est trois bises si on ne s'est pas vu depuis longtemps ou si on célèbre quelque chose.
Trois petits bisous sur la joue. Un peu formel en fait.
En Roumanie, comme en Géorgie, on se serre la main avec les gens qu'on ne connaît pas. Avec un petit bonus, un bisou sur la joue en Géorgie. Ils sont quand même très... C'est à moitié entre le formel et l'informel.
C'est un petit peu tactile quand même.
Et du coup, en Roumanie, on se prend dans les bras avec les personnes dont on est proche. Voilà, c'est...
Pour dire salut.
Voilà. Petit câlin. Alors, je voulais finir sur une petite note sympa. Donc, je vous ai donné plusieurs façons de dire bonjour au début de ma chronique. Et je voulais finir avec le salut géorgien qui est Gamardjoba.
Gamardjoba, je travaille mon accent.
Voilà, qui contrairement aux autres pays ne veut pas dire bonne journée. Parce que de toute façon, tout ce que je vous ai dit au début, ça se traduit dans tous les cas par passer une bonne journée, ce genre de choses. Et en fait, Gamardjoba, en Géorgie, ça ne veut pas du tout dire ça, ça veut dire notre victoire. Donc. Yorgi, notre SV européen, m'a expliqué que c'est pour commémorer l'histoire de la Géorgie qui a survécu à plusieurs guerres. Et voilà, donc Gamardjoba, c'est pour énoncer l'importance de la survie en tant que nation et de toujours se relever en tant que peuple uni. Et je voulais finir sur cette note parce que j'ai trouvé que c'était beau
et poétique. Mais comme quoi, l'importance, j'ai encore vu, j'aime beaucoup ce sujet-là, c'est l'importance de la linguistique dans la formation des phrases et dans quel vocabulaire on utilise. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. Il y a plein de TED Talks sur YouTube qu'on peut aller regarder là-dessus, c'est vraiment super intéressant. Je balance ça comme ça si ça intéresse quelqu'un, mais moi je trouve ça vraiment cool. Et par rapport aux façons de dire bonjour, j'avais parlé avec Daniele, donc c'est notre volontaire européen italien américain, on sait pas trop, mais enfin il est entre les deux. Et il nous racontait qu'il en fait, il a fait un Erasmus en Allemagne et du coup, il disait qu'en Italie, ils sont très tactiles, ils se font des câlins. Aux États-Unis, c'est pareil, entre potes, ils se font des câlins et tout. Et puis que quand il est arrivé en Allemagne, il voulait se rapprocher de tout le monde et tout. Et en fait, tout le monde lui mettait des vents parce qu'en Allemagne, ils sont beaucoup plus, entre guillemets, formels. Ils sont un peu plus froids. Enfin, quand ils se connaissent pas trop, en tout cas, c'est beaucoup plus carré, on va dire. Voilà, on touche pas trop les gens qu'on connaît pas. Et du coup, il expliquait quand il est arrivé en France après être venu en Allemagne, tout de suite tout le monde lui fait la bise, lui il était content, il se dit c'est pas mal, j'aime bien en fait, il s'est bien intégré dans le truc en fait.
Ouais, je trouve qu'on a tous assez bien pris le pli roumain du coup, parce que
roumain,
on se fait des câlins quand on se dit bonjour maintenant, donc
c'est vrai. On est tous proches, on est tous tactiques, venez à la méba, tout le monde s'aime bien, c'est génial,
voilà.
On est plein d'amour. Aujourd'hui, n'importe quoi. Et on va faire notre deuxième pause musicale. Du coup, oula, c'est moi qui tape le micro, ça ne va pas du tout. Et du coup, tout de suite, on va écouter une chanson qui s'appelle Bicicleta, si je le prononce bien, d'un groupe qui s'appelle Eye Drops. Et c'est une chanson roumaine, et ça a été choisi du coup par Johanna, et c'est très chill, j'aime beaucoup.
So we go.
maintenant du coup à la troisième partie de notre émission, les jeunes reporters européens sur Eau de Radio, fréquence 80.3. Et tout de suite, on va passer à la revue de presse avec Marine qui va nous parler des gilets jaunes vus par la presse européenne.
Alors, je tiens d'abord à souligner que j'ai vraiment l'impression de parler beaucoup aujourd'hui.
Tu parles beaucoup, mais c'est bien.
C'est bien, c'est bien.
On aime bien quand tu parles.
Donc, ce week-end, comme vous le savez, a lieu la marche des gilets jaunes. Et pour ceux d'entre vous qui vivent au milieu des bois et qui n'ont pas suivi les actualités du week-end, je vais vous rappeler les faits rapidement.
Je pense qu'il y en a peu, mais on va voir.
Oui. Voilà, je pense que vous n'avez pas pu échapper à cette masse de personnes avec leurs gilets jaunes fluo absolument hideux. Mais bon, passons.
Tout de suite, les remarques Christina Cordula sur la fashion style des gilets jaunes.
Ah bah, c'était pas magnifique du tout, je suis désolée.
Elle aurait pas été contente, hein.
Non, 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 c'était pas du tout stylé. Donc, comme l'explique The Guardian, donc le quotidien anglais, le mouvement des gilets jaunes a été entièrement organisé par les citoyens en réponse à la décision du gouvernement français d'augmenter le prix du gasoil de 6,5 centimes d'euros le litre à partir de janvier 2019 et pour inciter la population à passer à l'essence ou à l'électrique, blablabla. Enfin bref, on a entendu leurs arguments encore et encore, on commence à les connaître. Et donc très vite, un mouvement de protestation s'est élevé en France, donc classique, hein, comme l'a souligné le quotidien anglais, on a une longue tradition de descendre dans les rues pour protester dès que le gouvernement fait un truc qui ne nous va pas.
Français plémard, ça s'appelle.
Voilà, la hausse du gasoil n'a pas fait exception. Donc pourquoi ? Parce que les Français considèrent que cette augmentation des prix touche encore une fois la classe moyenne, qui ne peut pas se permettre de voir son plein de gasoil augmenter aussi fortement. Parce que de nombreux Français dépendent de leur voiture pour aller au travail, parce que ceux qui habitent à la campagne et qui vont travailler en ville n'ont pas le luxe des transports en commun. Pour avoir vécu dans cette situation, oui, je tiens à dire que les bus qui font ville-campagne ne sont pas très nombreux et à des horaires vraiment pas très arrangeants. Donc je comprends les gens qui préfèrent utiliser leur voiture. Et donc voilà, tout ça fait qu'on en arrive à ce mouvement de protestation civile de samedi, où on a vu voilà, des milliers de personnes porter des gilets jaunes, donc les fameux gilets de sécurité qu'on est censé avoir dans la voiture si on a un accident, tout ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de mouvement pacifique quelques jours après les faits ? Ce n'est pas ce que pensent les journaux portugais qui qualifient les manifestations de violentes. Le bilan de la journée de samedi, c'est environ 250 000 manifestants, 2000 blocus sur les routes de France. Et même voilà, même si ce chiffre assez important montre le mécontentement des Français, ce qu'on retient surtout, c'est les chiffres que je vais vous donner maintenant. Donc plus de 400 blessés, une quinzaine de blessés sérieux et un mort. Voilà, donc vous demandez comment une tragédie a pu se produire au sein d'un mouvement qui est pacifiste, qui était censé être une démonstration de nombre plutôt qu'une démonstration de force. Bon, je vais être un petit peu cynique et je vais faire des grosses généralités, mais pour moi, à moins d'être Gandhi, faire une protestation civile qui va se terminer où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a aucun blessé, aucun incident, c'est pas possible. Donc je suis pas je suis pas du tout étonnée même. Et comme l'explique le quotidien La Repubblica, c'est vraiment un accident bête. Ça s'est passé en Savoie. Une jeune mère qui tentait d'amener sa fille à l'hôpital a été arrêtée, bloquée par les manifestants qui ont secoué sa voiture, tapé sur le toit et elle a paniqué, ce qui peut se comprendre, et sans le vouloir, malencontreusement, appuyer sur l'accélérateur et renverser une manifestante d'une soixantaine d'années, donc plus très jeune non plus, qui est morte voilà, des suites de ses blessures. Voilà, c'est quand même la tragédie bête qui aurait pu être évitée. On a eu aussi d'autres incidents, mais cette fois beaucoup moins accidentels, puisque c'était plutôt les automobilistes mécontents qui ont tenté de forcer le passage lors des blocus et qui n'ont pas hésité à rouler sur les manifestants. Donc voilà, on sent quand même...
Bonne ambiance au week-end.
Voilà, c'est ça. C'est bien beau de parler de l'unité des Français qui se rassemblent sous une même bannière. Bon, on peut plutôt parler de même gilet, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça, en fait. Ça n'a pas du tout fait l'unanimité. Le Huffington Post a rapporté plein de dérives des manifestants. Là, ça fait 4 jours qu'on est là-dessus. Depuis samedi et aujourd'hui encore, on a des mouvements, des blocus. À Bordeaux, c'est la galère, c'est une galère sans nom pour sortir et rentrer dans la ville. On le sait. Et ben voilà, on remarque qu'il y a des dérives, les manifestants qui obligent les automobilistes à porter leur gilet jaune. On a des automobilistes qui rapportent s'être sentis obligés de signer des pétitions par peur des représailles. Donc voilà, ça perdure encore et c'est pas bien perçu du tout par le gouvernement qui ont l'impression qu'il n'y a pas de revendication réelle, que c'est juste histoire de faire chier et de bloquer le pays, par les automobilistes qui eux veulent aller travailler et qui sont bloqués. Enfin voilà. Et voilà, donc on a vraiment du mécontentement un peu partout. Et pour finir sur une petite note, voilà, pour montrer à quel point c'est ridicule, même les Italiens se foutent de nous, puisque on a, par exemple, j'ai vu passer un post Facebook d'un jeune Italien qui a fait remarquer que chez nous, le coût du gasoil, c'est 1,48€ le litre, qu'on a des salaires moyens de 2 250€, alors qu'en Italie, le coût du gasoil est de 1,57€ et que le salaire moyen est de 1 500€. Et pour vraiment montrer qu'en France, on râle pour
forcément,
rien.
On passe pour les gros râleurs de l'Europe. Je tiens à dire qu'on avait voulu en fait débattre un peu avec Marine, parce que après qu'elle m'ait expliqué un peu sa chronique, je lui ai fait remarquer qu'on n'était pas forcément d'accord sur plein de trucs, mais c'est pour ça que c'était intéressant. Malheureusement, on n'a plus trop de temps. Je suis un peu déçue parce que c'était vraiment intéressant, mais c'est pas grave, on le fera en off et vous le ferez entre vous, entre auditeurs, je sais pas, on verra ça. Mais du coup, tout de suite, on va passer au coup de cœur de la semaine, et c'est Johanna qui nous le présente.
Bonjour tout le monde. Pour les fanatiques des films, je vais vous parler du dernier film que j'ai ajouté à ma liste. On va parler de Locke, un thriller de 2013 avec du suspense à non plus finir. Mais vous n'inquiétez pas, ce n'est pas un film d'horreur. Steven Knight, le metteur en scène, a réussi à créer des personnages très complexes grâce à une technique très intéressante. Toute l'action du film prend place dans une voiture. Tom Hardy, qui joue le personnage principal, nous entraîne dans ses tourments lorsqu'il doit faire face à une situation difficile. Ce film est un voyage dans l'esprit d'un homme qui semble avoir tout perdu en quelques heures. C'est l'occasion de se mettre à sa place et de réévaluer nos morales et nos actions, mais aussi nous-mêmes. Est-ce que j'aurais fait la même chose? C'est la question que nous devons poser après l'avoir regardé.
Merci, Johanna. Ça m'a donné envie de le voir. Ça me rend un peu claustrophobe, rien qu'à l'idée d'entendre ça, mais pourquoi pas. Et maintenant, c'est à moi pour vous présenter l'agenda des événements à venir. Du coup, n'hésitez pas à passer nous voir à la MEDA, parce qu'on aura d'abord une soirée sur le thème de l'Espagne, organisée et animée par nos trois collègues espagnols le lundi 26 novembre à partir de 19h à la MEDA. Et je rappelle que c'est en place Jean Jaurès à Bordeaux. On participe aussi au Café Linguistique le jeudi 22 novembre, organisé à la médiathèque du Bousca, où vous pouvez venir parler anglais, allemand, espagnol, mais aussi portugais ou grec pour les amateurs. Le jeudi 6 décembre, vous pourrez participer à un afterwork linguistique aussi à la MEBA, ouvert à tous à partir de 18h30. Et le jeudi 11 décembre, vous pourrez prendre part à la soirée roumaine qui est organisée par Rioana, notre volontaire roumaine que vous venez d'entendre. Et aussi, bien sûr, tous les mardis à la même heure, vous pouvez nous retrouver sur Eau de Radio, à la même heure, je viens de le dire. Et maintenant, on passe à la minute de Rumi qui va conclure cette émission.
Bonjour à tous. Souhaitez la bienvenue ou dire bonjour à quelque chose d'universel vous en conviendrez tous.